vous avez eu un bon moment dans la présence du Seigneur et aussi dans la communion fraternelle avec vos groupes. Et pendant que moi j'allais faire ma petite promenade, là-haut j'entendais le Seigneur qui me répétait cette parole: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, parce que peut-être sur certains points, ben, nous n'étions pas tout à fait exacts. Alors la parole nous remet à la vraie place, nous redonne l'équilibre, parce que on a, que vous vouliez ou non, on est quand même un peu conditionné par l'éducation qu'on a reçue, par le milieu dans lequel on est né, puis on a fait des expériences, puis peut-être qu'on a tout rejeté, et puis il nous est très facile après de cracher dans le puits où nous avons bu, hein. Et ça, il ne faut jamais le faire, hein. N'oubliez jamais cela, on ne crache pas dans le puits dans lequel on a bu. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez eu dans votre enfance. Vous aviez peut-être des parents qui n'avaient pas certaines lumières, mais soyez reconnaissant qu'ils vous ont élevé, ils vous ont soigné, ils ont pris soin de vous, ils ont même prié pour vous dans la mesure où ils pouvaient le faire, d'après les connaissances qu'ils avaient. Et c'est bien pour ça qu'il est dit « Honore ton père et ta mère ». Et il y en a beaucoup parmi vous dont les parents avaient la crainte de Dieu. Ils n'avaient peut-être pas l'assurance du salut, mais ils ont su vous reprendre. Puis ils ont fait aussi des sacrifices pour vous. Alors, ayez aussi un souvenir d'eux si vous les avez perdus. Et puis, confiez-vous dans l'infinie miséricorde de Dieu. Et ne portez pas de jugement sur ceux qui nous ont quittés, parce que c'est Dieu qui juge. N'est-ce pas? Mais vous, dans la situation présente, vous êtes responsable des connaissances que vous avez. Et alors, vivez d'après ce que le Seigneur vous a montré. Je voudrais tout de suite vous dire aussi, pour vous mettre bien à l'aise, si quelqu'un parmi vous entendait une de mes paroles et ne la comprenait pas, eh bien, qu'il ait l'amabilité de me parler. Je ne suis pas un homme inaccessible. Vous avez vu ce que ma femme arrive à faire publiquement avec moi. M'enfiler quelque chose qui ne me convient pas. Bon. Je dis pas ça pour empêcher qu'elle vende ces trucs-là. Mais, enfin, c'est pas mon genre. Alors, ayez autant de liberté qu'en a ma femme. Je vous appartiens, dans un certain sens. Hein. Non, mais c'est vrai. Nous appartenons les uns aux autres. Alors, n'ayez pas peur. Par exemple, il semblerait que, ou bien je me suis mal exprimé, ça vous serait les témoins, mais j'aurais laissé entendre que je ne croyais pas à la conception virginale de Marie. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, je ne dis pas depuis 50 ans, parce qu'il n'y en a pas ici qui me connaissent depuis le moment de ma vocation, mais savent combien j'aime Marie, combien j'aime recevoir ses leçons, et que j'ai toujours déclaré qu'avec toutes les générations, je la dis bienheureuse, et que je crois de tout mon cœur que Marie a été visitée par l'ange du Seigneur et qu'elle a accepté de devenir, au risque de sa vie, la mère de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Et que sa conception a eu lieu par la toute-puissance du Saint-Esprit sans intervention humaine. Elle a conçu du Saint-Esprit et Jésus est né de la Vierge Marie. Et cela est si vrai que Joseph, à qui elle était fiancée, qu'a-t-il voulu faire? L'a répudié. Parce que lui, il avait aussi la tête sur les épaules, comme je le dis. Hein, et quand on lui raconte qu'elle est enceinte du Saint-Esprit, ça passe pas. Et alors, il a fallu l'intervention d'un ange pour lui dire « Ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. » J'espère que j'ai souligné ça assez fortement. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, eh bien, je vous propose mon petit livre sur les leçons de Marie, non pas parce que j'aime vendre ce que j'ai pu écrire. D'abord, j'ai jamais écrit pour écrire, mais j'ai donné des messages. Ces messages ont été appréciés par des foules et on m'a demandé d'écrire cela. Alors, c'était bien avant Vatican II, dans un milieu très protestant, j'ai montré ce qu'était Marie pour un croyant qui aime l'Écriture sainte. Et c'est grâce à cet opuscule que la direction des milieux charismatiques catholiques du Québec m'ont demandé de présenter Marie au Stade olympique en 1979. Hein? De sorte qu'il n'y a pas de doute au sujet de ce que je crois quant à Marie. Seulement, je laisse Marie à la place où le Seigneur l'a mis. Et je vous dis, c'est pas simplement avoir de la dévotion pour Marie qui compte, hein, et du respect pour Marie, mais c'est de vivre comme elle a vécu. Et je me souviens de cette phrase que j'ai dit au Stade olympique devant, il y avait bien 40 000 personnes, hein. Si l'ange du Seigneur venait à Montréal, vers quelle jeune fille pourrait-il aller faire une proposition pareille? Il y aurait encore parmi vous qui peut-être prétendez suivre Marie des vierges. N'est-ce pas? C'est ça qui compte. Marie était vierge. Or aujourd'hui, on a des relations à 13 ans. Ça n'empêche pas qu'on ait été baptisé. Alors vous voyez, c'est le moment de réagir. C'est le moment de n'être plus des hommes de milieu, mais réellement des hommes de Dieu, qui s'adresse à tout le peuple, parce qu'ils aiment tous les hommes sans distinction. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'espère que tous, maintenant, vous êtes à l'aise avec ce qui a été dit, ou qu'on a peut-être mal compris, peut-être que ça vient de moi, que je me suis mal exprimé, mais en tout cas, ce n'est pas ma pensée. Et si je crois à la résurrection, à la puissance du Seigneur qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, bien sûr que je crois à cette puissance et qui a permis à Marie de concevoir sans l'aide d'un homme. Alors, Seigneur, nous voulons te demander que tu nous donnes cet après-midi d'avoir une oreille attentive, et que tu me gardes dans l'expression de toutes mes paroles, que tu purifies mes lèvres, que tu sanctifies mon cœur, que je sois ta pleine possession, car c'est à toi que nous appartenons, et que ce que je te demande pour moi-même, la grâce pour parler, je te demande aussi pour mes frères et sœurs, que tu aimes tous d'un même amour, et que tu veux faire grandir dans la connaissance, non pas d'une vérité particulière, mais de la personne de Jésus qui est la vérité. Et que nous puissions toujours être comme membres du corps de Christ, comme membres de l'Église universelle, que nous puissions toujours être la colonne et le soutien de la vérité. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un aussi m'a dit qu'il était reconnaissant que j'ai donné, enfin, en passant, quelques-unes des réponses à ces questions qui sont dans le petit livret et que vous avez vues. Alors, j'ai donné donc quelques réponses sur les questions de notre réunion d'hier soir. Et quant à ce matin, eh bien, évidemment, il ne restait plus beaucoup de temps, mais au chapitre 2 que vous aviez à étudier à la première question, Paul était-il conséquent dans ses convictions? On a répondu, oui, n'est-ce pas? Pouvez-vous dire que Paul se sentait en forme quand il évangélisait les Corinthiens. Eh bien non, n'est-ce pas, mais ça sort du texte que vous avez lu. Non, au point de vue charnel, n'est-ce pas, il ne se sentait pas en forme d'une façon charnelle, mais il comptait sur la puissance de Dieu. Alors, quelle est la seule source de puissance d'une vie authentiquement chrétienne? En résumé, sans élaborer, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire sans l'Esprit de Dieu. 4. Pourquoi les chefs de ce monde n'ont-ils pas discerné en Jésus le Seigneur de gloire? C'est parce qu'ils étaient aveuglés par leur conception religieuse au sujet du Messie. C'était des gens qui connaissaient les Écritures, les chefs religieux. Mais ils avaient pris ce qu'ils voulaient dans la Bible. Et ils s'étaient fait une idée de ce que devait être le Messie, tout en ayant des appuis bibliques. Que le Messie devait durer éternellement, c'était dans la Bible, n'est-ce pas? Mais ils oubliaient d'autres passages. Et c'est ça la tactique du diable. Il est très connaisseur de la Bible, mais il vous en cite les passages qui lui plaisent. Et c'est bien comme ça qu'il a fait avec le Seigneur. Quand il lui dit de se jeter du haut du temple, hein, il lui dit, parce qu'il est écrit, hein, il cite aussi la Bible, n'est-ce pas, des anges, il commandera des anges à ton sujet afin que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. C'est le psaume 91, c'est vrai. Et le diable cite la Bible. Alors, on peut dire, ben, c'est vrai, j'ai quand même jeté en bas puisque c'est un verset qui me concerne. Mais le Seigneur ne se laisse pas tenter. Il dit oui, mais il est aussi écrit. Vous ne devez jamais isoler un texte de son contexte. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, simplement pour se montrer et pour prétendre qu'on est vraiment de Dieu. Je me jette au haut du haut d'une tour et puis voilà, je tombe là comme une fleur. Et puis tout le monde, ah, mais c'est merveilleux. Bon, ben que les Anglais, avec leurs parachutes, fassent ça du haut de la tour Eiffel, c'est leur affaire, hein. Mais ils ne font pas ça pour le Seigneur, hein. Et puis un jour, ben, ils se casseront la figure. Ça, vous pouvez en être sûr. On ne tente pas le Seigneur. Et il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Alors, en appelant Jésus le Seigneur de gloire, à quel rang le mettait-il, Paul, implicitement au rang de Dieu? Qu'apprenons-nous sur le Saint-Esprit? Eh bien, nous pourrions dire bien des choses. Vous étudierez ça à la maison. Il est la puissance de Dieu. Il est le révélateur. Il connaît les secrets de Dieu. Il nous vient de Dieu. Et c'est par lui que nous connaissons nos dons. C'est lui qui nous qualifie. Et puis, il nous donne un langage. Il nous enseigne comment nous devons parler. Et c'est lui qui est notre juge. Alors, 7, quand un homme a reçu l'Esprit de Dieu, que doit-il faire pour devenir un chrétien spirituel? Bien, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Soyez remplis de l'Esprit. Il est en vous. Mais quelle place lui avez-vous donnée? Est-ce que l'Esprit peut prendre toute la place? Est-ce que vous lui avez remis toutes les clés de votre vie? Est-ce qu'il est dans tous les appartements? Bien, vous avez gardé une petite place pour vous. Ou mieux encore, vous avez le Saint-Esprit, mais vous l'avez bloqué, vous l'avez enfermé. Hein. Je tiens à ce que tu sois là, c'est très précieux, hein. Mais je te mets dans mon coffre, parce que je ne voudrais pas qu'on te vole. C'est pas ça qu'il veut. Laissez-le agir en vous, soyez remplis de l'Esprit, il est en vous, et il voudrait diriger votre vie. Alors, pour devenir spirituel, ne l'attristez pas, et vous deviendrez un chrétien spirituel, et discernez ce qui est charnel en vous, jugez-vous de ce qui est charnel, ne tolérez pas ce qui est charnel, et vous progresserez dans la grâce. Alors, quel est le vrai rôle des serviteurs de Dieu? Bien, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes sous son contrôle, nous sommes sous sa direction, et à qui devons-nous répondre? À Dieu. C'est lui qui est notre directeur en toutes choses. Et nous vivons dans sa dépendance. Alors, avec quels matériaux construisons-nous sur le seul fondement qui a été posé? Jésus-Christ. Et j'espère que vous avez tous compris que l'Église a été fondée sur cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Toutes les Églises, depuis le commencement, là, sont fondées sur Jésus-Christ. Les Églises qui se réclament du Christ. Le fondement, la pierre, c'est Jésus-Christ. Mais depuis, eh bien, ce qui est arrivé,
c'est de savoir comment on a bâti dessus. Avec quoi a-t-on bâti? Et nous avons vu, si on étudiait l'histoire ecclésiastique, nous pourrions voir comment l'Église a dévié. La pierre angulaire, c'est le Christ. Il y a eu un commencement remarquable. Les apôtres étaient les premières pierres. C'est pourquoi on a pu appeler cette Église l'Église catholique, ce qui veut bien dire l'Église universelle. Puis on a pu dire qu'elle était apostolique, ce qui veut dire qu'elle suivait l'enseignement des apôtres. Pierre étant une des premières pierres sur la pierre angulaire, sur Christ, et les apôtres étant les pierres de base, nous avons tout cela dans les Éphésiens. Et puis chaque croyant qui est arraché à la carrière du monde et taillé par le Saint-Esprit devient une pierre vivante dans l'édifice. Mais il n'y a qu'une église au fond de Jésus-Christ. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors nous sommes des pierres vivantes dans l'édifice. Et quand le dernier des élus sera manifesté, l'église étant au complet, la pierre du fait ayant été posée, le Seigneur prendra son église auprès de lui. Car il l'a dit, Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Il n'est jamais dit que l'Église va changer le monde. L'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et quand le Seigneur reviendra, il aura son Église avec lui, de sorte qu'il aura dû l'enlever avant. Le corps de Christ, c'est l'Église, et quand Jésus paraîtra, eh bien, il n'y aura pas que la tête, mais il y aura aussi le corps. Le Christ tout entier, tête et corps vus dans son unité extraordinaire et merveilleuse. Et c'est alors que le monde croira que c'est lui. Et il sera admiré dans les saints et glorifié en tous ceux qui auront cru. Les mêmes caractères de la tête seront dans les membres du corps. Alors vous comprenez combien nos corps, au fond, sont aussi importants, parce que quand Dieu a voulu se révéler au monde, il lui a fallu un corps, hein, parce que Dieu était esprit invisible. Alors, ce corps a été formé dans le sein de Marie, et au risque de ne pas être reconnu, Dieu apparut ici-bas comme un simple homme. Il est venu naître, et il est né dans la pauvreté pour que tous puissent venir le trouver sans difficulté. Les bergers de Bethléem, les pauvres, ont pu aller à l'étable sans avoir besoin de changer de vêtements, et l'étable est devenue le premier sanctuaire où l'on a pu adorer le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis il a grandi, il a été enfant, il a été adolescent, il a été homme fait, il a traversé toutes les étapes de notre vie humaine, et il peut donc nous comprendre. En Jésus, Dieu s'est fait homme, mais Dieu était en Christ, dit l'Écriture, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes. Il ne nous a pas imputé nos fautes, mais il a pris nos péchés sur lui. C'est pour ça que c'est le Christ seul qui pouvait pardonner les péchés. Car quand il pardonnait les péchés sur la terre, il les prenait à son compte. Quand il disait à une femme, tes péchés sont pardonnés, c'est pas parce que lui, il était plus coulant que les pharisiens et qu'il passait l'éponge sur l'adultère. Mais l'adultère qu'il pardonnait à cette femme qu'on allait lapider, il prenait cet adultère sur lui et il allait payer pour elle. Et comment est-ce qu'il payait? L'adultère, c'était la condamnation à mort. Mais qui mourrait pour cette femme? Jésus. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas ne pas mourir. Il fallait, dit Jésus ressuscité, que le Christ souffrît ces choses pour qu'il entrât dans la gloire. Car si le Christ était entré dans la gloire sur la montagne de la Transfiguration, il n'y aurait que Jésus. Hein. Jésus, Fils unique, éternel de Dieu, serait dans la gloire. Et sur la terre, eh bien, nous aurions là une morale chrétienne, mais nous ne pourrions pas lui ressembler. Tandis qu'il a été le vrai grain de blé. Et qu'est-ce qu'il disait? Si le grain de blé tombant en terre meurt, il demeure seul. Mais pour qu'il y ait du fruit, il fallait que le grain de blé meure. Et c'est cela que Jésus disait, à cause de ceci, le Père même, c'est que moi je donne ma vie pour mes amis. Et il a donné sa vie, et c'est de sa mort qu'est née l'Église, que sont nés les croyants. C'est par sa mort que nous pouvons naître de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il nous faut d'abord accepter de mourir en lui, comprenez-vous ? De mourir en lui, et c'est ça que signifie le baptême, que nous acceptons cette mort avec Jésus, notre identification au Christ dans sa mort. Et dans l'Église primitive, pour bien illustrer cette vérité, on faisait le baptême par immersion. Il suffit d'aller visiter les églises d'Italie ou d'ailleurs pour que les guides vous disent, vous savez que dans l'Église primitive, eh bien, on baptisait les croyants par immersion. C'était l'image d'un ensevelissement, identification au Christ dans sa mort. Mais on ne restait pas sous l'eau, parce qu'alors ça aurait été la mort réelle, hein, mais on en sortait, image que le Christ n'était pas resté dans le tombeau, mais qu'il était réellement ressuscité. Il est ressuscité. Mais alors, tant que l'Église a été persécutée, elle a été fidèle. Quand, alors, sous Constantin, il y a eu cette conversion et qu'il a cru pouvoir imposer le christianisme à tous ses États, qui étaient les États païens, eh bien, c'est là que la religion chrétienne s'est corrompue et que est née ce qu'on appelle la chrétienté, qui n'a pour ainsi dire plus rien de chrétien. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la chrétienté? Que fait-on au nom de la chrétienté? Les avortements, et ce sont des baptisés qui se font avorter, la contraception, tout ce que vous voulez, il n'y a plus de foi, et non seulement ça, mais l'homosexualité est mise en vedette, et puis si on vous parle du sida pour vous faire peur, on vous dit de toute façon il faut quand même mourir, alors que je meurs du sida, ben tant pis, et puis l'alcoolique, eh bien il meurt d'une cirrhose du foie, et puis le fumeur, eh bien il meurt d'un cancer des poumons, et puis moi, ben je mourrai du sida, mais ça n'empêchera pas qu'on continuera dans ces voies perverses, et qu'il y aura des pasteurs, ou même des prêtres, pour bénir des mariages homosexuels ou de lesbiennes. C'est une abomination, c'est mes amis, nous sommes arrivés dans ces temps de la fin dont il est parlé, et quand on nous dit, oui, mais il y avait déjà ça à Sodome et Gomorre, oui, mais allez trouver Sodome et Gomorre, hein, il y a le jugement, c'est plus là. Il y a toujours eu ces choses-là. Mais quand ça arrive à un point tel qu'on veut justifier le mal, et appeler le mal bien et le bien mal, eh bien, c'est le jugement qui vient. Et même les athées sont convaincus qu'il doit arriver quelque chose. Il y a l'angoisse partout. Alors une fois c'est la bourse, une autre fois c'est un tremblement de terre, une autre fois c'est un raz-de-marée, une autre fois c'est un volcan. Mais tout cela n'est qu'un commencement de douleur. La colère de Dieu s'amasse sur un monde qui a rejeté Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ revenait, il n'y a pas besoin d'avoir lu Dostoïevski pour savoir cela, si Jésus-Christ revenait, qu'est-ce qu'on lui ferait? Vous connaissez l'histoire du grand inquisiteur? On le ferait mourir. Parce qu'il serait un gêneur. Même dans les églises. Rendez-vous compte? Il y a un prêtre qui m'a dit une fois, tu peux pas leur parler un peu contre le bingo. Je veux leur parler contre le bingo, mais il dit, mais c'est une abomination, mais nous ne pouvons pas faire autrement, parce que voilà, nous avons des charges et on nous impose le bingo. Et vous apprenez ainsi aux enfants comment après on ira à la bourse, puis ensuite dans les maisons de jeu. Hein. Mais quand je pense que c'est ça qu'on fait déjà dans les églises, on me dira, mais c'est le sous-sol. Dommage que ce ne soit pas au clocher. On espère qu'il y en aurait qui auraient le vertige. Eh bien, mais non, mais on n'a pas de vertige, là, puis on s'installe, puis ne me parlez pas contre le bingo. Alors, bingo, bingo, bingo. Mais écoutez, ça, c'est dans certaines églises, mais dans d'autres. Dans d'autres, il y a d'autres choses. Hein. Il y a tous les festivals qu'on arrange aujourd'hui, parce que c'est la fête, il faut que ce soit la fête. La fête au bord du volcan, la fête jusqu'au dernier moment. Il n'y a plus de sainteté. Alors que les séraphins dans le ciel s'exhortent les uns les autres en disant « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Puis nous, on dit dans nos églises « Saint, Saint, Saint ». Puis où est-elle cette sainteté? Voilà où nous sommes arrivés. Alors, mes amis, c'est l'heure du réveil. C'est l'heure de se ressaisir. Je ne parle contre aucune église, je ne parle contre aucune personne, mais je vous dis, je me parle à moi-même, parce qu'un jour, je serai devant mon Dieu, qui me dira, je t'avais donné des possibilités, je t'avais donné des portes ouvertes, des occasions. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu étais la sentinelle au milieu de mon peuple qui dégénérait? Est-ce que tu as osé leur dire, oh mes seigneurs, c'était trop difficile. Puis moi, je voulais quand même avoir de bonnes relations. Je voulais pas me faire des ennemis. Il me disait, alors moi, tu m'as oublié? Hein? Jésus s'est fait des ennemis. Et des ennemis redoutables. Et il en est mort. Mais pourquoi? Pour nous sauver. C'est par sa mort que nous avons la vie. Et vous ne l'aimeriez pas? Comment ne pas l'aimer? Quand nous pensons qu'il est allé jusqu'au bout et que ses disciples lui disaient, mais Seigneur, ça ne peut pas t'arriver une chose comme ça. Puis nous alors, qu'est-ce qui va nous arriver si tu meurs? Comme si le Seigneur ne voulait pas prendre soin d'eux. Jésus est allé jusqu'au bout. Alors, vous verrez ces questions vous-même. Hein? Alors, au sujet de ce que nous avons construit sur le fondement, eh bien, vous devez vous souvenir que faites attention aux matériaux que vous amenez, parce que tout sera éprouvé par le feu, même l'or et l'argent. Les scories seront ôtées. Et puis, alors, faites attention de ne pas apporter du bois, du foin, du chaume. Il y a des vérités, mais si vous mettez sur le fondement une vérité et que vous l'isolez au fond, et puis il n'y a plus que cette vérité qui convient, n'est-ce pas, pour vous, eh bien, vous construisez avec du bois, du foin, du chaume. Il y a des doctrines. Je ne dis pas que ceux qui les professent ne seront pas sauvés, mais ils auront travaillé en vain. Et juste sauvés comme au travers du feu. Ne pensez pas qu'il est question du purgatoire ici. Hein. Être sauvé comme au travers du feu, c'est pas le purgatoire. Hein. Je me souviens, un jour, j'avais prêché sur un chapitre des Romains, et une personne, j'étais dans un milieu tout à fait catholique, une personne a dit, mais alors, si c'est vrai ce que Paul dit, pourquoi ça sert le purgatoire? Et j'ai dit, vous avez peur du purgatoire? Elle dit, mais toute notre vie, on a peur de cela. Alors, j'allais répondre quand le prêtre est tout de suite venu en disant, vous savez, avant que notre frère Gaston vous parle, je voudrais tout de suite vous dire que le purgatoire n'est pas une doctrine biblique. C'est une philosophie qui a été ajoutée au cours de l'histoire de l'Église, mais ce n'est pas une doctrine fondamentale et biblique. Alors, non, nous ne croyons pas, je ne crois pas qu'il y ait un purgatoire, je crois que c'est maintenant que nous devons être purifiés. Et c'est un salut total que le Seigneur nous donne maintenant, c'est maintenant que doit se faire l'union avec le Seigneur. Alors, croyez bien cela, si le purgatoire était dans la Bible, j'y croirais, mais il n'y est pas, de sorte que c'est une doctrine, on le sait bien, qui a été ajoutée. Et puis après, pour sortir les âmes du purgatoire, c'était une question d'argent, de sorte que finalement, on a fait tout un trafic avec cette doctrine parce que on avait besoin d'argent. C'est comme ça qu'est entrée la corruption dans plusieurs églises. Mais il y a d'autres choses. Il y en a qui vous disent, oui, mais je crois en Jésus-Christ, mais vraiment, il faut pour être vraiment un chrétien authentique, il faut être végétarien. Alors, il y a des chrétiens qui disent, mais si ça vous convient, le régime végétarien, soyez végétarien, alléluia. N'est-ce pas? Mais vous ne pourrez pas être serviteur de Dieu, alors. Parce que quand on est végétarien, enfin, vous pourrez servir, peut-être, dans votre coin. Mais vous ne pouvez pas aller chez les gens, partout où vous allez, puis vous dites, oh, vous savez, moi, je ne mange pas de ceci, moi, je ne mange pas de ça, moi, je ne mange pas de ça. C'est contraire à ce que Jésus a dit. Quand vous entrez dans une maison, mangez et buvez de tout ce qu'on mettra devant vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quand j'étais au Vietnam ou quand j'étais en Afrique du Nord, ben je leur disais pas, vous savez, moi je mange pas de ceci, moi je mange pas de cela. Alors je serais un type compliqué. Et j'aurais été tannant, comme vous dites. On aurait dû demander quelqu'un d'autre. Mais c'est pas la nourriture qui compte. Mais si je mange trop, bien sûr. Si la viande ne convient pas, je ne mangerai pas de viande. C'est pas la viande qui va me sauver, puis c'est pas le régime aux légumes qui va être le meilleur pour moi. Peut-être. Daniel et ses amis, ils ont mangé des légumes et ils avaient bon visage. Alors ne nous jugeons plus sur ces questions du manger et du boire. Tout cela, c'est du foin, du bois, du chaume. ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la base, c'est Jésus-Christ, et puis veillez maintenant aux matériaux que vous employez pour construire dessus. Je pense que vous avez compris cela, c'est pas chinois. Et maintenant, je passe plus loin, où est le temple de Dieu et qu'il habite, c'est l'Église. Et alors, faites attention, l'Église, c'est le temple de Dieu et qui est-ce qu'il habite, c'est le Seigneur. Alors, faites attention à vos bingos et d'autres choses. Kermesse, grande kermesse, vente de l'Église, hein, tout ce que l'on fait pour avoir de l'argent. Alors que les apôtres et Jésus lui-même nous ont dit que quand nous avions des besoins, nous devions entrer dans notre chambre, fermer notre porte sur soi, prier, puis que Dieu, qui verrait dans le secret, nous donnerait ce qu'il faut. Mais nous disons, mais c'est pas possible! Il faut bien que je fasse connaître mes besoins. Personne n'y pensera. Personne. Vous n'avez pas un père qui pense? Il faut les faire connaître à lui, ses besoins. Et alors, c'est ça notre contrôle. Quand on a fait connaître nos besoins à lui, et qu'on est prêt à travailler de nos mains, parce que on dépend du Seigneur, et puis le Seigneur nous a dit qu'il fallait peut-être aussi travailler, c'est pas humiliant cela, eh bien, peu importe, mais je m'attends à lui, et il me montrera ce que j'ai à faire. Et nous avons un bon maître. Il n'y a pas à faire la grève avec lui. Ben, vous verrez, bientôt il y aura la grève des pasteurs, puis il y aura la grève des prêtres. C'est presque déjà là. À qui appartenons-nous aujourd'hui et qu'avons-nous? À qui est-ce que vous appartenez? À Jésus-Christ. Et qu'avez-vous? Tout. Tout. C'est pas formidable? Vous avez Paul, vous avez Pierre, vous avez Apollos, tous les serviteurs de Dieu, Augustin, Thomas d'Aquin, tout ce que vous voulez, Luther, Calvin, ils sont à moi. Et puis les grands revivalistes, ils sont à nous, dans ce qu'ils avaient de bon, dans ce qu'ils ont apporté de bon. Puis ils laissent, le reste, on le laisse. Et les Corinthiens pouvaient-ils suivre l'exemple de Paul et accepter les recommandations, ses recommandations pour aujourd'hui? Et est-ce que nous pouvons accepter les recommandations qu'il nous donne? Mais bien sûr. Et alors vous avez ce chapitre 4 qui vous montre qu'alors que l'Église était très triomphaliste à Corinthe, disait « nous sommes arrivés, nous avons tous les dons, etc. », Paul nous montre quelle vie il avait. Il était comme les balayures du monde. J'espère que ça vous restera. Hein. Pas de triomphalisme chez Paul. Hein. Lui, il est un exemple. Vous triomphez, vous dites « mais c'est merveilleux ce qui se passe au Québec, nos églises sont les premières églises du monde maintenant. Bon. » Vous trouvez ça? Regardez-le un peu de près. Non, regardez-vous vous-même et jugez-vous. Alors, on ne critiquera pas. Alors, bon. Alors, Jean, les trois sortes d'ouvriers, oui. Je m'excuse, hein, parce qu'il y a tellement de choses. Et alors, il y a les bons ouvriers, hein. C'est dans le chapitre 3. Vous avez les bons ouvriers, ils font du bon ouvrage, hein. Tel que Paul. Mais il y a des mauvais ouvriers, je veux dire, des vrais ouvriers, mais qui font du mauvais ouvrage. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas ouvriers. Ils sont ouvriers, ils sont de vrais ouvriers, je ne doute pas de leur salut, mais l'ouvrage qu'ils font n'est pas bon. Ils n'emploient pas des moyens spirituels pour communiquer des choses spirituelles. Alors, il y a les bons ouvriers et qui font comme le Seigneur faisait. Ils font ce que le Père faisait, et nous cherchons à faire ce que Jésus faisait. Puis, il y a de vrais ouvriers, ils sont au Seigneur, mais ils pensent qu'on peut introduire toutes les méthodes du monde dans l'Église, et alors ils font du mauvais ouvrage. Et alors, les résultats, eh bien, on le voit avec les matériaux. On travaille sur les émotions, sur la chair, pour le Seigneur. Et puis alors, vous avez les ouvriers qui sont vraiment des ouvriers de perdition et qui seront détruits. Voilà les trois sortes d'ouvriers. Bon ouvrier, vrai ouvrier et ouvrier de perdition qui s'en iront à la destruction. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints. Alors que nul ne s'abuse soi-même. Et l'apôtre Paul dit, je vous le dis en pleurant, il y en a parmi vous qui marchent, qui sont ennemis de la croix du Christ. Parce qu'ils remplacent bien souvent le message par des méthodes qui ne sont pas celles de Dieu. Nous arrivons donc à notre petite page 6, et voilà le grand sujet que vous avez étudié cet après-midi. Alors, au chapitre premier, l'apôtre Paul avait dénoncé les partis qui s'étaient formés dans l'église de Corinthe. Hein. Les divisions. Il a dénoncé les divisions. C'est ce que vous aviez au chapitre premier. Alors, il ne faut pas opposer les serviteurs du Seigneur et il faut éviter les divisions. Le Christ est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. C'est ce qu'il était dit dans Jean 11, verset 52. Une des conséquences de la mort de Christ, c'est pas de diviser les croyants, mais de les rassembler. Rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Alors, avec toute leur religion, mais n'ayant pas l'esprit, les gens religieux du temps de Jésus ont crucifié le Seigneur de gloire. Puis j'ai parlé aussi des trois genres d'hommes. L'homme naturel, c'est celui qui n'est pas régénéré. Puis ensuite, le chrétien, il croit, mais il reste charnel. Puis à le chrétien spirituel, une gradation. Puis Paul a présenté l'Église comme un édifice dont le fondement est Jésus. Et ce fondement est commun à toutes les Églises chrétiennes, que ce soit l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les Églises de la Réforme, qu'elles soient luthériennes ou calvinistes, et puis les Églises qui sont issues de tous les réveils spirituels de ces derniers siècles, comme aujourd'hui, ces communautés qui se forment des nouveaux convertis, eh bien, elles ont le Christ comme base. Enfin, c'est ce qu'on prétend. Mais alors, comment bâtissons-nous dessus? C'est là la grande question. Il y en a qui ont bâti avec les œuvres. On a oublié le salut par la foi. Et on a commencé à dire qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. On a établi une hiérarchie, un clergé, alors que tous devaient être des frères. Et puis, ensuite, on a donné aussi à Marie une place que Jésus ne lui a jamais donnée, mais qui n'est pas sa place. On a mis Marie devant tout, et ce qui a fait que beaucoup de gens, quand ils vous parlent encore de Jésus, comment l'appelle-t-il? Le petit Jésus. Pourquoi? Eh bien, bien souvent en France, j'ai eu des grandes discussions avec des gens du clergé. Eh bien, c'est toujours Marie avec l'enfant, hein, le petit enfant. Alors, Jésus reste le petit Jésus. Alors que toute l'Écriture vous montre la place de Marie et la place qu'elle a voulu, la place qu'elle a prise. C'est dans l'ombre de la croix, c'est dans l'ombre de Jésus. Et c'est une offense à Marie que de la mettre ailleurs que où elle veut être. Alors, ensuite, vous avez toute cette histoire des saints, nous sommes saints en Christ. Déjà maintenant, nous sommes séparés du mal et du monde. Et puis, il y a aussi, on pourrait parler de l'évangélisation, ce qu'on a voulu faire de l'évangélisation, comment bâtissons-nous au sujet de l'évangélisation. Puis, nous avons eu ce qu'est un serviteur de Dieu, il est souvent maltraité, mais comment répond-il? Comme Jésus. Il est comme Christ. Quand vous voulez piquer un serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous devez trouver? Le Christ. Le Christ. Il répond comme le Christ. Et c'est quelque chose de merveilleux. Nous devons être identifiés au Christ. Alors, maintenant, nous arrivons à l'inceste. On a parlé des divisions. Maintenant, une deuxième grande chose, c'est l'inceste. Et la dénonciation que Paul en fait. Je dis encore au sujet d'être... Oui, mais c'est ce que nous allons voir là. même d'être sauvé comme au travers du feu, vous auriez pensé à qui? Qui est-ce qui a tout perdu, mais qui a quand même été sauvé? Lot, n'est-ce pas? Lot, il a été sauvé comme au travers du feu. La ville a été brûlée, mais Lot a été sauvé. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a tiré. L'ange a tiré Lot. Il était pieux quand même, Lot. Mais il ne pouvait pas se séparer de ça. Il avait ses aises, il avait ses biens, là, ses relations. Et il a fallu que l'ange, les anges le prennent par la main et le sortent de cette ville pervertie. Alors, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Alors là, mes amis, vous avez vu ce que j'ai noté. Impudicité, débauche, au verset page 6, hein, fornication, immoralité, dans le français courant, ça a été traduit par immoralité. Selon diverses traductions, tout cela signifie des relations charnelles entre des personnes qui ne sont pas mariées, ni liées par des vœux. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Hein. On veut être ensemble, mais sans avoir des liens. On ne veut pas être lié par des vœux. C'est donc tout à fait contraire à ce qu'a enseigné l'Écriture dans le livre de la Genèse. Alors, cela aussi comprend l'inceste, qui est donc des relations avec un membre de sa famille, le concubinage, l'amour libre et l'adultère, tout cela, ce sont des relations qui ne sont pas selon le conseil de Dieu. Alors, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous, donc dans l'Église, notez bien cela, hein, que ça se passe dans le monde, c'est normal, hein, c'est ce que le monde est, il n'est pas conduit par le Seigneur, mais que cela se passe dans une Église qui confesse le Seigneur, eh bien ça c'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Il doit y avoir dans l'Église une discipline. Et vous ne pouvez pas prendre la communion si vous êtes dans le péché. On peut tous tomber dans le péché, hein, mais on s'en juge, on le confesse. On a supprimé les confessions maintenant, etc. Je ne dis pas que les confessions, comme on les faisait, étaient vraiment très scripturaires, mais il y a une confession du péché. Une confession au Seigneur, mais aussi peut-être à un frère en Christ en qui on a confiance parce que cela nous aide, parce que ce frère peut dire, ben voilà, je vois qu'il est vraiment humilié, et c'est des fois humiliant de se confesser à quelqu'un. Eh bien, il est dit, confessez vos fautes l'un à l'autre, et priez les uns pour les autres. On entend dire parmi vous qu'il y a de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Là, vous savez que les païens, évidemment, c'était la polygamie pour plusieurs. Hein. Et avoir la femme de son père, ça ne veut pas dire nécessairement coucher avec sa mère. Hein. Quoi qu'il y en ait beaucoup, hein, même ici au Québec. Sans parler alors des pères qui violent leurs filles et qui disent, mais je dois t'apprendre. Quelle abomination. Hein. Parce qu'on essaye toujours de justifier. Et puis ça va même très loin. Même des gens dits spirituels et qui font croire que, étant donné qu'ils ont été en bénédiction aux âmes, eh bien, ils pourraient peut-être leur donner encore plus en couchant avec cette âme. Elle coucherait avec un saint. Vous rendez-vous compte? Ce serait du spirituel. On en arrive là, et je connais des personnes qui ont été séduites parce qu'elles avaient une telle vénération pour un grand homme de Dieu, qu'elles en sont arrivées à croire que ça leur donnerait encore plus de Saint-Esprit de passer par là. Et alors, l'apôtre dénonce ces choses, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, parce que ça se savait. J'ai connu une église où il y avait un pasteur qui était un homosexuel. Les anciens le savaient, mais quand c'était un bon orateur et qu'il remplissait l'église, on tolérait cela. Et puis un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été arrêté par la police. C'était pas dans ce pays, c'était dans mon pays. Parce que après une prédication, il se changeait, il mettait d'autres vêtements, des lunettes noires, puis il faisait le trottoir dans sa vie. On ne sait pas, n'est-ce pas? Mais vous savez, il savait très bien parler. Je me souviens encore d'une de ses prédications. J'étais à l'école secondaire, il avait fait l'enterrement d'un de mes camarades. Il avait une lettre qui commençait par R aussi. Moi, je m'appelle Racine. Il avait aussi une lettre qui commençait par R. Et c'était un croyant. On était les deux seuls là, à notre pupitre. Puis voilà qu'il est mort à 15 ans. Et je me souviens de l'enterrement, toute l'école était là. Et puis, il avait eu cette image que ce jeune homme, il était comme la colombe qui revient dans l'arche, et Noé étendit sa main pour prendre la colombe qui n'avait pas trouvé un lieu sec pour mettre la plante de son pied. Et ne voulant pas se souiller, la colombe était rentrée dans l'arche, tandis que le corbeau, lui, eh bien, c'est un animal impur, il se nourrissait de charogne, alors lui, il n'était pas rentré, tandis que la colombe était rentrée. Et je me souviens toujours de cela, ce jeune homme que j'avais perdu, eh bien, Noé avait tendu la main pour rentrer dans l'arche. Dieu avait pris ce jeune homme auprès de lui. C'est cet homme-là qui vivait dans le péché. Il disait de très belles choses. Vous rendez-vous compte comment on peut être double? Double de cœur? Être un moment homme dans la parole, puis un autre moment dans le péché. Vous savez, c'est l'habitude, parce qu'une fois qu'on a commencé, on se dit un peu plus, un peu moins. Et on continue. Et on en a jusqu'au bout. Attention. Attention, mes amis. Il faut fuir l'idolâtrie. Et il faut fuir l'impudicité. Alors, verset 14. Non, j'en suis au chapitre 5. Hein. Verset 3. Pour moi, absent du corps, de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Vous voyez qu'il ne doute pas même du salut de cet homme. Cet homme a pu tomber avec une des femmes de son père, ce qui ne devait pas se faire. Mais il ne dit pas qu'il est perdu. Mais il ne peut plus être un témoin. Et alors, il faut qu'il soit retranché. Il faut qu'il soit excommunié, mis hors de communion, pour qu'on n'identifie pas toute l'Église avec ce que cet homme fait. Pour que ce ne soit pas un exemple. Puisque lui le fait, pourquoi que nous ne le ferions pas? Il faut qu'il y ait séparation du mal et jugement du mal. Et alors, livrer un homme à Satan pour la destruction de la chair, il faut avoir d'autres versets qui éclairent. C'est que Satan avait reçu le pouvoir de la mort. Il est le prince de la mort. Et il est dit que pendant toute leur vie, les hommes sont tenus dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Et c'est à cause de Satan que l'homme meurt, parce qu'il a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, vous voyez que Satan a ce pouvoir de la mort, mais il ne peut l'exercer que par la permission de Dieu. Verset 14 de l'Épître aux Hébreux, du chapitre 2. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé Jésus lui-même, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable avait la puissance de la mort. Ainsi est qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, versets 14 à 15. Alors, quand Paul dit qu'il a jugé en lui-même de livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair, c'est donc pour qu'il meure. Et si vous prenez l'histoire de Job, qui est-ce qui va tenter Job? Qui est-ce qui va essayer de lui faire perdre la foi? C'est qui? C'est Satan, c'est le diable, qui se présente devant Dieu et qui lui dit, quand Dieu lui dit, est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui, parfait, droit, craignant Dieu, sortirant du mal, c'est pas pour rien qu'il te craint. Alors, Dieu permet à Satan d'éprouver Job, mais il lui dit, jusque-là, mais pas plus loin. et Job a triomphé de cela. Mais maintenant, quand Paul, après avoir été ravi dans le paradis, au troisième ciel, et entendu des choses ineffables, quand il est revenu sur la terre, qu'est-ce qu'on aurait dit? Lui, pour lui, il a déjà été au ciel, il n'y a plus de danger. Ben non, c'est justement qu'il y a des dangers. Quand on a des grandes révélations et beaucoup de bénédictions, c'est là qu'on est le plus en danger. Alors vous allez dire, ben moi j'en demande plus de bénédictions. Non, mais n'ayez pas peur. Mais alors, acceptez l'ange de Satan pour vous souffléter afin que vous ne vous enorgueillissez pas. 2 Corinthiens, chapitre 12. L'apôtre Paul dit que, à cause des révélations extraordinaires qu'il a eues dans le troisième ciel, qu'il n'est pas même permis d'exprimer ce qu'il a entendu, eh bien, Dieu lui a envoyé un ange de Satan pour le souffléter. Il avait une écharde dans le corps qu'il attribuait à Satan, qui l'humiliait, et à 3 reprises, il a demandé à Dieu d'en être délivré, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, voilà, vous comprenez mieux ce que cela veut dire. C'est bien à tort, verset 6, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez au sujet du levain. Je vous ai posé là aussi une question. Le levain, dans toute la Bible, contrairement à tout ce qu'on vous dit dans vos églises, peut-être, c'est toujours pris de mauvaise part. Le levain, qu'est-ce que c'est? Oui, mais en lui-même, c'est un morceau de pâte corrompu, pourri, n'est-ce pas? Bon. Alors, ce levain, bon, on le met dans le pain, ça fait lever la pâte. Mais, dans l'Écriture, le levain est toujours pris dans un mauvais sens. Quelqu'un vous dira, mais c'est pas vrai. Jésus a parlé du royaume de Dieu qui est semblable à du levain qu'une femme prit et mit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. Alors, on vous dit, le levain, c'est l'Évangile. Et l'Évangile mis dans la pâte humaine, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça doit faire lever toute la pâte, c'est-à-dire le monde entier doit se convertir par l'Évangile. C'est la théorie que vous trouvez enseignée dans bien des églises. Bon, si vous voulez la garder, gardez-la. Mais est-ce que vous voyez le monde en train de se convertir? De plus en plus, les gens ne veulent plus de ce pain-là. Parce que justement, c'est du pain levé. Le pain de la Pâque, c'était du pain sans levain. Et vous pouvez prendre depuis l'Exode, à travers toute la Bible, le levain est toujours mis de côté, parce que c'est un élément de corruption. Et quand Jésus nous parle dans les 7 paraboles de Matthieu 13, il nous montre ce qu'est devenu la chrétienté. Grâce à ce levain, qui est une fausse doctrine, et qui a fait lever la pâte, c'est-à-dire la doctrine du Christ, la pure doctrine, les 3 mesures de farine, c'était la pure doctrine du Christ, quelqu'un a mis du levain dedans. La femme, qui est un élément ici, je ne dis pas ça pour vous, mes sœurs, mais qui est un élément perturbateur, là, elle a mis le levain, et ça, elle l'a mis d'une façon cachée, et ça a fait lever toute la pâte. Et maintenant, de ce pain-là, le monde ne veut plus. C'est le mahométisme qui prend de plus en plus, n'est-ce pas? Il y a le réveil religieux chez les musulmans, et puis il y a la régression chez les chrétiens dans l'Église. C'est quelque chose d'effroyable. Mais c'était écrit. Nous n'allons pas vers la conversion du monde, nous allons vers la séparation de l'ivré et du bon grain. Un ennemi a fait cela et aujourd'hui il y a mélange partout. Les 10 vierges sont aussi l'image de ce mélange. Toutes ont la même apparence, mais les unes ont de l'huile dans les lampes et les autres n'en ont pas. On a tous la profession chrétienne, tout le monde se dit chrétien, mais les uns ont la vie et les autres n'ont que l'apparence. Alors le Seigneur connaît, lui, ceux qui sont les siens.
Et si vous reprenez, mais je n'ai pas le temps de parler de tout ça, je vous les cite, ces passages des évangiles, Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. C'est quoi? L'hypocrisie. Gardez-vous du levain des sadducéens. C'est quoi? L'incrédulité. Ne croyez ni aux anges, ni aux esprits. Gardez-vous du levain d'Hérode. C'est quoi? Le levain d'Hérode, c'est la mondanité. Voilà. Le levain, c'est une doctrine pernicieuse qui corrompt la pâte pure de l'Évangile. Et il y a eu corruption dans l'histoire de la chrétienté. Je ne suis pas le seul à le dire. Alors, l'apôtre dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein, verset 6. Et c'est vrai. Si vous avez un mauvais exemple, c'est contagieux. Mettez une pomme pourrie dans un panier de bonnes pommes, qu'est-ce qui va arriver? Les bonnes pommes vont ramener la pomme pourrie. Non, c'est le contraire qui va se faire. Donc il faut enlever la pomme pourrie, n'est-ce pas? C'est quelque chose de douloureux peut-être. J'avais acheté toutes ces pommes, je les ai comptées 10 fois, puis voilà que je dois me séparer d'une pomme. Mais si tu ne te sépares pas de cette pomme-là, tu devras te séparer de toutes. Comprenez-vous? Alors, il faut savoir dire non à ce qui est mal. Alors, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Alors, il faudrait lire le chapitre 12 de l'Exode, où vous voyez comment il fallait célébrer la Pâque avec des pains azimes, c'est-à-dire sans levain. Car Christ, notre Pâque, c'est lui qui est notre Pâque, qui est l'agneau pascal. Le véritable agneau, c'est le Christ. Il a été immolé. Alors, célébrons donc la fête. Là, c'est la vraie fête eucharistique. Célébrons la fête. Non avec du vieux levain, puis quelqu'un a dit, prenez du nouveau levain. Vous avez ça dans vos bibles? Remplacez le vieux levain par du nouveau levain, mais c'est la même chose. Vous comprenez? On tord les Écritures. Le vieux levain, il faut l'enlever, puis il faut mettre du nouveau levain. Non, il n'est pas dit cela dans les versions. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, vous voyez que c'est une doctrine, hein, mais avec les pains sans levain. Alors, c'est pas moi qui vous le dis. Collez-vous à la parole. Et si le vin sans levain, il est ajouté de la pureté et de la vérité. Aimez la vérité, aimez la pureté. Alors, et évidemment, vous allez me dire peut-être, mais, et du reste, j'ai posé la question, cette histoire de livrer un tel homme à Satan, eh bien, l'apôtre Paul avait pensé le faire. Mais si vous lisez la deuxième épître, cet homme qu'il avait pensé livrer à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire qu'il meurt, n'est-ce pas, eh bien, il s'est repenti. Et il s'est repenti d'une telle manière, il a été tellement humilié, je pense, quand il a lu cette lettre, qu'au fond, il mériterait la mort. Il a senti cela, il a confessé sa faute, mais il ne l'a pas seulement confessé, il l'a abandonné. Celui qui confesse ses transgressions et qui les abandonne, il obtient miséricorde. À un tel point que Paul a écrit une seconde lettre et il leur dit, ratifiez votre amour envers cet homme. Il a été assez humilié, de sorte que la discipline ecclésiastique, elle n'est pas faite pour exclure simplement, mais pour ramener un pécheur de son égarement. Mais c'est le dernier des moyens. Mais il faut l'employer quand même. Alors, il y a d'autres choses. Ça rejoint le péché qui mène à la mort. C'est pas à la mort de l'âme, hein. C'est à la mort du corps. Tu peux plus être témoin. Je suis tombé dans telle faute. Alors, on peut pas dire d'une façon spécifique ce qu'est cette faute. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, ont commis le péché qui mène à la mort. Ils ont offert un feu étranger. Et ils sont morts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Comprenez-vous? Mais ils ne pouvaient plus servir au tabernacle. Dieu les a retranchés. Ça peut aller jusque-là, hein, la mort du corps.
comme à la Sainte Seine, comme à l'Eucharistie. Si vous prenez la Seine d'une façon indigne, c'est pour cela que plusieurs sont malades parmi vous et que d'aucuns sont morts. C'est des chrétiens qui ne se sont pas jugés. On va prendre la Sainte Seine ou l'Eucharistie, là, et c'est simplement on mange et puis on continue. On n'est pas libéré et on ne sanctifie pas le Seigneur, on a un mauvais témoignage. Alors, Dieu peut nous retrancher, ça peut aller jusque-là. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, alors. Et eux aussi sont morts. Je ne dis pas qu'ils sont perdus, comprenez-vous? Mais ils ne pouvaient plus être des témoins dans l'Église. Ils avaient menti au Saint-Esprit et ils ont été retranchés. C'est pour ça que l'apôtre Paul est toujours conscient de cela. Tant que nous sommes en vie, nous sommes dans un monde de péché où toutes les tentations sont là, on pourrait tomber, que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. On est toujours en danger. Alors il faut persévérer, il faut veiller, puis il ne faut pas courir vers la tentation, alors qu'on prie en disant ne nous induis pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis on court vers le mal. Alors, il ne peut pas y avoir de délivrance. Mais je dis, on ne peut pas dire que c'est un péché spécifique. Parce que l'adultère de David n'a pas été un péché qui conduisait à la mort. Mais pour d'autres, ça peut être ce péché-là qui conduit à la mort. J'en ai connu. De sorte que faisons attention. Mais David, lui, s'est humilié et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il faudrait que vous sortiez du monde. On est dans un monde où toutes ces choses se font. Alors, vous n'allez pas dire aux laitiers, ou enfin, je ne sais pas, vous achetez votre lait, maintenant il n'y a plus de laitier, moi je suis encore un vieux de la vieille, hein, où on allait à la laiterie, mais maintenant on ne va plus à la laiterie, on va chez Steinberg ou chez je ne sais quoi, hein, chez le dépanneur, et on achète son lait, mais vous n'allez pas lui dire, quelle est ta vie privée? Sans ça, je ne t'achète pas de lait. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous ne pourriez plus vivre. N'est-ce pas? On est bien obligé de vivre avec des gens du monde sans qu'on sache quelle est la vie et qu'ils mènent. Mais dans l'Église, où nous disons que nous avons communion les uns avec les autres, nous devons veiller à nos relations. Maintenant, ce que je vous ai écrit, eh bien, c'est de ne pas manger avec un ivrogne, un ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, ce sont ceux qui ne sont pas au Seigneur. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, qu'est-ce qui leur arrive? Dieu les juge. Nous remettons le jugement à Dieu et puis nous prions pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Mais c'est Dieu qui les juge. Mais nous, dans nos communautés, nous devrions savoir ôter le méchant du milieu de nous-mêmes. Et s'il n'y a pas cette discipline dans l'Église, eh bien, vous verrez que vous aurez un tas de troubles. Il y a de l'interdit dans l'Église. Mais alors, faisons attention, nous avons des règles. Nous allons d'abord trouver ce frère. Nous savons qu'il vit dans l'adultère. Eh bien, si c'est mon frère en Christ, j'irai le trouver. D'abord, dans le silence, dans le sans bruit, et lui dire, mon cher ami, pourquoi est-ce que tu fais cela? Ça te mène où? Tu as une femme, tu as des enfants? Alors, qu'est-ce que je vois? J'essaye de le reprendre doucement, sans le juger, en lui disant, c'est moi, ça pourrait aussi m'arriver. Je suis comme toi quant à Dieu, mais tu ne peux pas continuer, je t'en supplie. Alors, si je vois ce frère qui est saisi et qui me dit, mais oui, tu sais, je suis tombé, mais oh, j'en suis malheureux, je demande pardon à Dieu. Il s'humilie, il demande pardon à Dieu. Il abandonne cette liaison, puis on va trouver sa femme arrive, elle est une chrétienne, à lui pardonner, alors tout est remis dans l'ordre, il n'y a pas besoin d'ébruiter la chose et de faire le grand scandale dans toute l'Église, n'est-ce pas? L'amour couvre une multitude de péchés. Nous n'avons pas à publier les fautes des autres, mais nous avons à veiller les uns sur les autres et à nous exhorter les uns les autres. Mais s'il ne veut pas m'écouter, Puis s'il dit, bon, écoute, laisse-moi la paix, moi je suis bien libre de faire ce que je veux, tout m'est permis, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, tu ne peux pas m'empêcher d'avoir mon bonheur, alors je dirais, écoute, si tu ne veux pas m'écouter, je serai obligé de le dire à un autre frère, puis on viendra les deux. Alors, s'il ne veut pas écouter, il n'a pas voulu m'écouter, on vient à deux, sur le témoignage de deux ou trois témoins, toute affaire est entendue. S'il ne veut pas écouter les deux frères, qu'est-ce qu'il faut faire alors? On l'a pas mis dehors, mais on le dit à l'Église, c'est l'Église qui décide ce qu'il y a à faire. Mais on aura fait cela dans la charité, dans l'humilité, et non pour le mépriser, mais pour le ramener. C'est une brebis qui était égarée, qui a eu un moment de défaillance. Alors, voilà comment nous devons être conduits par l'Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces choses-là. Maintenant, l'histoire des procès, chapitre 6. Je n'aurai pas besoin de m'allonger longuement là-dessus. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est les saints qui sont où? Sur la terre encore. Ils sont déjà saints sur la terre, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin d'attendre dans le ciel pour être saint. Vous êtes mis à part. Hein? Et vous êtes pour le Seigneur, vous appartenez au Seigneur. Mais quand Jésus jugera, il nous prendra avec lui pour juger le monde. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mais il aura fallu être fidèle d'abord dans les petites choses nous-mêmes et savoir nous juger nous-mêmes. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements dans la vie quotidienne? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Oui, il y a des anges qui sont déchus, hein. Vous le savez. Les anges déchus seront jugés par les saints, par les hommes, par les croyants. Les anges déchus, je ne peux pas entrer dans tout cela, n'est-ce pas? Mais je vous le dis en passant. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si dans l'autre vie on jugera des choses, si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Mais il essaye de les raisonner. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les incrédules. Mais alors, il y en a qui nous disent, oui, mais il est dit que le magistrat ne porte pas l'épée en vain. Hein, il vous cite Romains 13 pour justifier qu'ils sont allés devant les tribunaux, qu'ils ont entraîné des gens à la cour, etc. Eh bien, ça, c'est une autre affaire. Hein, parce que les magistrats, oui, nous reconnaissons que l'autorité a été donnée par Dieu. Nous avons des responsabilités vis-à-vis des autorités. Nous ne devons pas transgresser les lois. Mais quant à amener quelqu'un devant les tribunaux, c'est une autre affaire. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns contre les autres. Pourquoi ne souffririez-vous pas plutôt qu'elle injustice? Oh, mais ça, on en est loin. Pourquoi ne subiriez-vous pas quelque injustice? On dit disciple de Jésus, et qu'est-ce qu'il a subi, Jésus? Toutes les injustices. Alors, vous avez la première épître de Pierre, chapitre 2, celui... cette épître que nous allons étudier au mois de décembre, qui nous montre quelles traces nous devons suivre. Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui, quand on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage. Quand on le menaçait, il ne menaçait pas. C'est ça le caractère du Christ. C'est pas avoir des paroles d'un Jésus qui sauve. C'est vivre le salut. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Oh ben non, alors, me laisser dépouiller, n'y pensez pas. Je peux juste me laisser dépouiller d'un truc là qu'on m'a mis sur moi. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors, comment voulez-vous que vous ayez une autorité pour prêcher? On sait que vous insistez toujours sur vos droits, que vous voulez avoir les derniers mots, que vous voulez triompher. Alors, comment voulez-vous prêcher au nom de Jésus? Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Quatre fois dans l'Écriture, il est parlé de ce ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. C'est quand même formidable la grâce. Hein? On a pu être dans cette compagnie-là. C'est ce que nous étions, quelques-uns d'entre vous. Je n'ai pas dit tous, mais quelques-uns. Mais vous avez été lavés. Par quoi? Par le sang de Jésus. Mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Et vous voyez comme on retrouve le verset du chapitre 1er, hein, le dernier verset. Christ est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Hein. C'est lui qui est tout cela. Alors, souvenez-vous de cela, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, verset 12, tout m'est permis. C'est vrai, vous dites que tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà la vraie règle. Nous sommes dans la liberté en Christ, mais nous avons maintenant une intelligence et une conscience qui nous montrent les choses qui me sont utiles et les choses qui ne me sont pas utiles. Et je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas devenir esclave de quelque chose. Et c'est ce que nous verrons dans le chapitre 7 encore. Il ne faut pas mettre son cœur même à des choses naturelles. Il faut aimer les choses, mais ne faites pas des idoles des choses même qui sont bonnes. Parce que des choses bonnes, quand elles deviennent des idoles, elles deviennent mauvaises. Vous l'avez compris déjà. Je sais que je ne parle pas à des gens qui ignorent ces choses. Alors ça me donne encore du courage pour aller de l'avant. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Voilà l'argument qu'il prend. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Bien sûr qu'on doit, on doit manger, on doit boire. Mais là, l'apôtre Paul veut lutter contre une idée qui était déjà répandue comme cela à Corinthe. On disait, vous savez, au point de vue sexuel, hein, puis vous l'entendez aujourd'hui, hein, quand tu as faim, tu manges. Quand tu as soif, tu bois. Quand tu veux faire l'amour, tu as un désir, tu le satisfais. Ça n'a rien à faire avec ton christianisme, ça. C'est les besoins du corps. Alors, l'estomac crie famine, et puis, eh bien, mon sexe a des désirs, etc., que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Alors, c'est la même chose. Ça ne touche pas mon christianisme. Je ne suis pas pécheur. C'est des choses tout à fait naturelles. Et on nous dit que nous sommes tout à fait dans l'erreur en voulant mettre certaines restrictions. Je ne mets pas de restrictions, mais je dis, que dit la parole, que dit l'Écriture, quelle est la pensée de Dieu pour l'homme? Est-ce que avoir des relations sexuelles, c'est sur le même plan que manger et boire? Quand vous mangez et que vous buvez, bon, ça va dans le ventre, puis ça va où après? Je n'ai pas à le dire. Ça passe. J'espère. Mais quand vous avez des relations sexuelles, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez mettre vraiment la relation sexuelle sur le même plan que le manger et le boire? Qu'est-ce qui peut arriver avec la relation sexuelle? Un enfant. Donc c'est pas la même. Oh, mais vous direz, mais on sait s'y prendre. Condom, condom, condom. C'est tout le reste. Quelque chose de terrible. On a nos moyens. Mais j'ai eu ma fille me l'a dit, ça, quand elle était dans son kibbutz, je vous l'ai déjà peut-être raconté une fois. Elle avait des tentations, il y avait des jeunes, oh, des Américains, mais, ils étaient là, puis ils lui disaient, ils auraient voulu coucher avec elle. Il dit, mais, elle disait qu'elle était chrétienne, non, elle refusait. Il dit, mais c'est rien, ça touche pas ton âme, ça. C'est seulement ta chair. Bon. Alors c'est ce que je dis, c'est du bœuf, c'est du veau, c'est du poulet, c'est du cochon. Ah, ça touche pas votre âme, c'est seulement l'extérieur. Vous savez, c'est affreux, hein, tous les arguments qu'on peut avoir. Vous ne savez pas ce qu'est votre corps.
Votre corps a besoin de nourriture, mangez, buvez, mais ne donnez pas des goinfres non plus. Vous vivrez plus longtemps. Les aliments sont pour le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, vous le savez, ça va passer. Mais le corps, c'est différent, comprenez-vous? Bien sûr, l'estomac est dans le corps, mais le corps, dans sa totalité, il est pour qui? Il est pour le Seigneur. Alors ne dites pas que le christianisme méprise le corps. Au contraire, il met le corps dans sa vraie situation. Le corps est pour le Seigneur. Il a fallu au Seigneur un corps. Tu n'as pas voulu d'offrande ni de sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alors c'est ça qui est merveilleux. Votre corps est un trésor. Mais le corps est pour, n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Les aliments sont pour le ventre est pour les aliments. Mais le corps, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est pour le corps. Voulez-vous avoir tout le Seigneur? Eh bien, donnez-lui aussi votre corps. Et c'est ça, livrez vos corps en sacrifice vivant. Nous aurons le culte demain après-midi. Mais que ce soit vraiment l'offrande, non pas seulement de nos bouches, de nos lèvres, mais notre corps. On dit au Seigneur, tu as eu besoin d'un corps pour te manifester au monde, eh bien voici mon corps, fais de mon corps ce que tu veux. C'est là la leçon de Marie. Elle a donné son corps pour que Dieu en fasse ce qu'il voulait, et cela a donné Jésus. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Voilà à quoi sont destinés nos corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, il est un seul corps avec elle? Car ils ne sont plus deux, mais ils deviennent une seule chair, c'est vrai. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, fuyez la débauche. Ça vous fait penser à qui? À qui a dit fuir la débauche? Joseph. C'est en plein Joseph. Parce que dans une tentation comme celle-là, il n'y a qu'un moyen, c'est fuir. Il ne faut pas se croire assez fort en disant, oh ben moi, je peux aller jusque-là, mais enfin, je n'irai pas si loin que ça, mais fuyez, fuyez. Il faut savoir fuir quelquefois. Ce n'est pas fuir nos responsabilités, mais c'est parce que je veux garder mes responsabilités, je fuis la tentation. Parce que si vous ne fuyez pas, vous ne tiendrez pas le coup. Nous ne sommes pas de bois, nous ne sommes pas d'airain, nous ne sommes pas de marbre, ce n'est pas vrai. Et celui qui pense qu'il est de marbre, eh bien, il se trompe. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. C'est vrai. Mais celui qui se livre à la débauche, il pêche contre son propre corps. C'est quelque chose de très grave. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Qui est en... Donc, l'Église est le temple de Dieu, mais notre corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Dieu est dans l'Église, dans le rassemblement des croyants, mais Dieu est aussi en chacun de nous. Vous devenez le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, à qui est-ce que nous appartenons? À Jésus, au Seigneur, à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Quel prix? La vie de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Pas seulement dans votre esprit, parce que le monde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit notre corps, il ne voit pas notre esprit. Alors glorifiez Dieu dans votre esprit, dans votre corps, et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas seulement mon être intérieur qui appartient à Dieu, mais c'est aussi mon être extérieur. Et alors, si je dis, quel est le verset où vous trouvez, au chapitre 6, la présentation trinitaire? Le verset 11, hein? Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà un texte trinitaire. Et puis maintenant, on peut continuer. Alors vous arrivez au chapitre 7. On a encore 20 minutes. Vous voulez vous lever un instant et puis on fait le... Je vais demander à l'apôtre Paul des questions au sujet du célibat et du mariage. Alors vous avez ça au chapitre 7 que nous allons parcourir rapidement. Pour ce qui concerne des choses auxquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est la question du célibat. Mais il parle, lui, Paul, du don qu'il a reçu. Et il pense que c'est une bonne chose de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, l'apôtre Paul n'est pas du tout contre le mariage, loin de là. Lui, il a reçu une vocation spéciale, mais pour que vous puissiez être sûr que Paul n'est pas contre le mariage, il nous dit que ceux qui interdisent le mariage, qu'est-ce qu'ils ont? Une doctrine de démon. Vous avez ça dans le chapitre 4 de la première épître à Timothée. Dans l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescriberont de ne pas se marier. Non. Il dit que ça, c'est une doctrine de démons. Le célibat ne peut être que volontaire, mais on ne peut pas l'imposer. Mais c'est individuellement que nous devons savoir ce qui nous est demandé. Mais ce n'est pas le Seigneur qui prescrit le célibat, puisqu'il a lui-même institué le mariage. Nous croyons que le mariage est une institution divine, comme nous le voyons dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. Et comme Jésus nous l'a montré, il a souligné l'indissolubilité de ces liens du mariage. Mais voilà, l'Évangile arrive dans une contrée tout à fait païenne, alors ça pose un tas de questions. Toutefois, pour éviter donc la débauche, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Mais quand il est parlé de cela, c'est un mariage où il y a un lien, où les vœux ont été prononcés. Même chez les païens, ça se fait aussi ainsi. Alors, il n'est pas question d'amour libre, jamais. Que le mari rende à sa femme, alors dans le mariage, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le mariage chrétien, la femme devrait être convertie, et le mari aussi. Là, il n'y aurait pas de problème. Mais quand on évangélise, il y a peut-être une personne dans le couple qui se convertit, et puis l'autre qui ne l'est pas. Alors ça crée des difficultés. Alors c'est cela que Paul va souligner. Que le mari, donc dans un couple normalement chrétien où l'un et l'autre appartiennent au Seigneur, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Si nous sommes mariés, c'est quand même pour être aussi une seule chair. Et le Seigneur a institué la procréation, le mariage en vue de la procréation. C'est un des aspects du mariage, mais pas seulement en vue de la procréation. Ça, c'est dans le chapitre premier. Croissez et multipliez. Donc, pour croître et multiplier, il faut qu'il y ait une relation sexuelle, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est clair. Et c'est de Dieu. La relation sexuelle n'est pas un péché. Le péché originel n'est pas une relation sexuelle. Il faut bien vous enlever ça de la tête et du cœur. Ce n'est pas un péché sexuel qui est le péché originel. Parce que sans ça, alors, Adam et Ève n'auraient pas été mariés. Mais il est dit, ils sont une seule chair quand on est marié. Bon. Mais le péché originel, c'est une désobéissance. C'est l'attitude de l'homme qui a dit non à Dieu, qui a voulu vivre sa vie seul. Mais ça n'a rien à faire
avec la question sexuelle. C'est Dieu qui a établi nos sexes. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient unis. Mais alors, il y a dans cette relation, comme nous allons le voir plus loin encore, et il doit y avoir une correspondance. Il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Alors, il doit y avoir correspondance dans tous les milieux, au point de vue spirituel, au point de vue psychique de l'âme et au point de vue du corps. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Si vraiment on vit sous la direction du Seigneur et dans la soumission du Seigneur. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Il y a des moments peut-être où c'est préférable de se séparer pour pouvoir prier. Ceux qui ont une vie de prière savent ce que c'est cela. Puis retourner ensemble, de peur que Satan, parce que Satan est toujours là, et qu'est-ce qui arrive si on est trop longtemps peut-être séparé de sa femme ou sa femme de son mari, qu'il n'y a plus de relation d'intimité totale, eh bien, qu'est-ce qui peut arriver? Satan pourrait nous tenter en raison de notre manque de maîtrise, parce que comment est-ce qu'il peut nous tenter? Par une autre femme ou par un autre homme, hein? Il y a bien souvent des désastres dans un couple parce que le mari n'a pas eu assez d'égards pour sa femme, aussi du côté sexuel. Et puis d'un autre côté, il y a des femmes qui n'ont pas eu assez d'égards pour leur mari, qui ne les ont pas compris. Parce qu'il y a donc trois raisons dans les relations sexuelles. Il y a la procréation. Alors l'Église romaine a surtout insisté là-dessus d'abord. Mais maintenant, ça a changé, ils ont compris qu'il y avait le chapitre 2 qui nous montre la relation sexuelle comme expression d'une communion totale. L'esprit étant uni, l'âme est unie et le corps se joint. Et dans cette unité, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme fruit? L'enfant, qui n'est pas un accident, mais qui est le fruit de cet amour total. L'enfant. Mais encore, s'il y a l'enfant, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est lui qui ouvre la matrice, c'est lui qui ferme la matrice. Et si vous aviez le temps de prendre toute l'écriture, vous verriez toujours que les femmes bibliques ont demandé à Dieu un enfant. Alors si vous n'en voulez pas, dites-lui, Seigneur, j'en veux pas. Ça, c'est votre affaire. Ou dites-lui, Seigneur, s'il était possible que je n'en aie pas. C'est un moyen de contraception. Parce que c'est lui qui... Oh, mais vous n'y croyez pas, hein, je sais. Oh, je sais que vous n'y croyez pas. Mais moi, j'y crois. Je crois que c'est lui. Il n'y a pas une vie qui existe sans sa volonté. Je ne dis pas qu'il a voulu que ça se passe comme ça. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est lui qui donne la vie. Et c'est une grande bénédiction de pouvoir dire à quelqu'un qui dit « Moi, je ne connais ni mon père, ni ma mère, etc. etc. » Mais tu es en vie. Donc c'est lui qui fait naître, c'est lui qui fait vivre. Je ne te dis pas qu'il a voulu que ça se passe comme ça s'est passé, mais du moment que tu es en vie, tu as une raison d'être. Va trouver Dieu. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, psaume 27, verset 10, le Seigneur me recueillera. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, faisons attention, donc il faut l'équilibre.